chrétien par temps de crise, c'est le thème qu'ont retenu les dominicains de Bordeaux pour leur conférence de carême 2021. Aujourd'hui, nous vous proposons une de ces conférences intitulée « L'amitié sociale » avec le frère François Régis, conférence enregistrée le 21 février 2021. Chrétien par temps de crise, l'amitié sociale.
Le pape François, dans son encyclique « Fratelli tutti », commente la parabole du bon samaritain. Et celle-ci éclaire par un exemple concret le dialogue entre un pharisien et Jésus sur le thème du prochain. La question « Et qui est mon prochain ?» se rattache à une autre interrogation. Que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ? Et ces deux questions se rattachent au commandement de l'amour qui répond et unit ces deux questions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ces trois thèmes, le prochain, la vie éternelle et l'amour, sont liés entre eux. Et l'amour de Dieu, à l'origine du prochain, de mon frère et de soi-même, est le même élan d'amour qui m'entraîne vers la vie éternelle. Ce même amour me permet de franchir, au jour de la mort, les portes du banquet où chacun retrouvera Dieu et son prochain. Cet amour, Dieu nous le donne dès et si bas comme dynamique de notre vie terrestre auprès de nos frères. Et cela s'enracine ou devrait s'enraciner dans la préoccupation première de toute organisation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, économique, politique, sociale, ecclésiale. Car l'être humain comme frère est bien le bien fondamental, le bien naturel et le bien commun de toute forme d'organisation et donc de la société humaine. Chaque être humain, quelle que soit son époque, sa culture, sa langue, sa religion, son statut, est et reste l'égal de l'autre en tant que frère. Chacun est ami et frère de l'autre. Ensemble, ils ne constituent qu'une fraternité en vue de vivre l'amitié sociale. Et s'appuyant sur saint François, le pape François proclame « Heureux celui qui aime l'autre autant lorsqu'il serait loin de lui » comme quand il serait avec lui. En quelques mots simples, saint François exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où il est né et habite. Et saint François, poursuit le pape, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Les propos du pape François, inspirés par ceux de saint François, sont fondés sur l'Évangile. Ils nous font prendre conscience que l'autre malgré ses différences et sa singularité, est un ami. Il rappelle à tous les catholiques et à tout homme de bonne volonté que l'autre est un frère. Et le propos de Dieu est de partager sa vie avec tous ses enfants. La vie de chacun de ses enfants est de vivre avec Dieu. Chaque homme est une créature de Dieu, faite à son image, en vue de sa ressemblance. Entre hommes, nous partageons donc une même nature humaine donnée par Dieu lui-même. Et ainsi se fonde de reconnaître l'autre comme un égal de soi. Et par l'incarnation du Christ, Dieu révèle que Jésus est son Fils. Par son Fils, Dieu promet à chaque homme d'être et d'agir en fils de Dieu, et ainsi de valoriser l'autre comme un frère. À la résurrection, le ressuscité, après avoir appelé Marie-Madeleine par son prénom, lui dévoile « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et notre Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et notre Père, vers mon Dieu et notre Dieu. » Voyez l'amour de Dieu pour nous, pour vos frères. Et là, s'enracine d'aimer chaque personne comme un frère. Et comme le dira saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme est de voir Dieu. Voir Dieu dans la vie éternelle ne consistera pas en un duo entre Dieu et moi, mais entre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et tous les frères qui vivront ensemble. Les regards de tous et de chacun se porteront vers Dieu. Mais s'il en est réellement ainsi, cela signifie que dès ici-bas, chaque être humain est mon frère. Et quelle que soit l'organisation dans laquelle je me trouve, et notamment en entreprise, quand j'anime un conseil d'administration, les actionnaires sont mes frères. Quand je convoque un comité de direction, les membres sont mes frères. Quand je passe les entretiens annuels, le collaborateur est mon frère. Et quand je passe une commande, le fournisseur est mon frère. Quand je vends plusieurs caisses de vin, le client est mon frère. Quand je reçois la lettre de résiliation d'un contrat, le mécontent est mon frère. Quand je réponds à une interview pour un article de journal, le journaliste est mon frère. Et quand je reçois la taxe d'habitation, le maire reste mon frère. Et la liste est intarissable. Mais ces mots ne claquent pas qu'aux oreilles. Ils prennent aux tripes et nous font prendre conscience de la responsabilité engagée vis-à-vis de mon frère à chaque fois qu'une décision est prise, qu'un acte est posé et qui révèle les défis et les enjeux de notre existence. Cela nous renvoie à ce que nous avons de plus cher et en commun, à savoir un Dieu qui est Père, source de toute vie, de tout être, de tout agir, de toute existence. Son projet, ne l'oublions pas, est que tous soient frères. Il nous appelle par notre prénom et nous invite à construire dès ici-bas cette fraternité, cette amitié sociale, en vue de la vivre en plénitude dans la vie éternelle. Mais alors, qu'est-ce que cette amitié sociale? Elle est à vivre dans toute organisation humaine, parce qu'elle est liée à la fraternité, et que la fraternité est à vivre au quotidien. Et elle est même inscrite par Dieu, la dynamique d'une aspiration qui est propre à l'humain, son inclination naturelle à la vie en société, et qui ne se retrouve pas dans l'intimité des êtres du monde végétal, ni dans les êtres du monde animal. Certes, il existe des prémices de la vie sociétale chez les abeilles. Leur vie en commun reste en même temps limitée et déterminée par leur nature animale. Mais la vie commune humaine se détermine et s'autoconstruit par la liberté humaine. Cette capacité permet à l'homme de discerner et de décider de la gouvernance de la famille humaine, à l'image d'ailleurs et en lien avec la providence divine. Et ce déploiement est dû à cette capacité sociable ancrée dans la propriété humaine du vivre ensemble. Mais à bien des écarts, ce sujet est aussi brûlant que délicat. Il met le doigt sur la complexité de l'être humain, des relations humaines, conséquences des différences culturelles qui induisent une multitude de manières de vivre. Alors comment appréhender les moyens concrets de cette vie sociable et la manière de la vivre au quotidien? N'est-il pas judicieux de réfléchir à ce qu'il a sous-tend? Son principe, respecter l'intégrité humaine. Sa conviction, veiller à la dignité humaine. Et ses moyens consistent à adopter des valeurs humaines ouvertes au désintéressement de soi et tournées vers le développement intégral de l'autre. Ces trois piliers exigent la responsabilité de chacun à s'enraciner dans une raison de vivre. Et celle-ci est la prise en compte des défis et enjeux actuels de la famille humaine. Par la liberté responsable, chacun est appelé à se déterminer en vue de vivre l'amitié sociale. Et sa priorité fondamentale est de prendre soin de l'autre comme de son frère. Le vivre ensemble, fondement de l'amitié sociale, se déploie à travers trois raisons fondamentales. La raison d'être ensemble, en reconnaissant en l'autre un frère. La raison d'agir ensemble, en valorisant l'autre comme un frère. Et la raison d'exister ensemble, en aimant l'autre comme un frère. Être ensemble, ce n'est pas une option, ni une éventualité. C'est un fait, une réalité. Car la personne est rarement seule. Certes, il peut se faire que chacun peut se sentir seul ou souffrir de solitude. Mais cela ne veut pas dire qu'il est seul, qu'il n'est pas en contact avec d'autres. Et l'être humain peut se mettre aussi à l'écart des autres. Il peut se retrouver seul, mais il peut aussi, s'il le souhaite, rencontrer d'autres personnes en frères. Et chaque être humain croisé, connu ou inconnu, est un frère. Peu importe d'ailleurs si, subjectivement, je le considère ou non comme un frère, objectivement, c'est un frère. J'ai à le reconnaître comme tel. Lui comme moi, devons faire avec. Mais de manière plus concrète, cette prise de conscience de l'être ensemble, dont aucun ne peut échapper, pousse en fait chacun au « connais-toi toi-même ». Et donc, à la question du qui ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? Et après avoir évoqué en introduction la question de l'homme de manière théologique, comme enfant de Dieu, il est essentiel de peindre une esquisse de l'homme de manière anthropologique. Cela permet de connaître l'être humain en sa nature humaine, en vue de reconnaître la singularité de chaque personne en tant que frère, due à sa nature individuelle, et de prendre conscience du profil de chacun selon son évolution personnelle, due à son existence. Ainsi, la femme, comme l'homme, puisqu'ils sont égaux, évidemment, cela va de soi. La femme, comme l'homme, se caractérise par des principes communs définissant l'espèce humaine. Pour certains, il est inenvisageable d'évoquer une nature humaine. Pour certains philosophes, je pense à Sartre, par exemple. Pourtant, l'évidente réalité montre que l'homme se définit par plusieurs dimensions qui font de lui une personne humaine. Et elle se retrouve en chacun, et ceci fait de chacun un frère. Alors, ce qui le distingue d'une pierre, c'est qu'il est un être mais animé, vivant. L'être humain a en lui la vie, qui est due à l'union d'un corps et d'une âme. Qu'est-ce qui le distingue d'un végétal ? C'est que son âme, unie à son corps, est dotée d'un cœur, à savoir une sensibilité de par ses sens externes et internes, mais aussi d'une affectivité, de par les sentiments qui l'animent et lui permettent de désirer, de combattre et de se mouvoir. Et qu'est-ce qui le distingue d'un animal ? C'est que son âme, unie à son corps, est dotée d'un cerveau qui lui permet de connaître et de vouloir, à travers une intelligence théorique et pratique, et une volonté créative et relationnelle. Voilà, en quelques mots, la nature humaine. Ce qui est tout aussi paradoxal est que chacun soit singulier. Tous les hommes sont pareils et en même temps uniques. Et il n'est pas difficile de le constater. Prenez une fratrie, des frères et sœurs, de même parents, voire même de vrais jumeaux. Même s'il est facile de retrouver des points communs, ils sont tous différents. Toutes les dimensions, corps, cœur et cerveau de la nature humaine se déploient en chacun de nous et grandissent selon ses tendances naturelles et individuelles. Le corps de chacun s'individualise en lien avec sa prestance naturelle, teintée de plus ou moins de charme, dont chacun a le secret. Le cœur de chacun se développe en caractère, plus ou moins prudent, audacieux, juste, tempérant. Et le cerveau de chacun se démarque en tempérament, plus ou moins cérébral, plus ou moins pratique, plus ou moins inventif, plus ou moins relationnel. Et si déjà au naturel, chacun se singularise, le temps fait aussi son œuvre, mais là, de manière plus ou moins voulue. Et avec la liberté, capacité proprement humaine, qui fait de l'homme un être autonome. Par cette capacité, l'homme a le pouvoir de se distancer, de se déterminer et de se construire. Qu'est-ce que je veux entendre par se distancer? Je prends cette idée de Viktor Frankl, un philosophe psychiatre du XXe siècle, qui dit que l'homme, en prenant de la distance par rapport à lui-même, cela lui permet à chacun de prendre du recul par rapport à lui-même et de discerner ses forces et ses failles, de décider celles qu'il veut mettre en avant, celles qui sont à progresser. Et se déterminer, deuxième point de la liberté, et cette capacité fondamentale à discerner et à décider de nos projets, mais aussi de se décider et de discerner les lieux de nos apprentissages, de telles valeurs intellectuelles, les sciences, les compétences, le savoir-faire, en vue de faire, mais aussi des valeurs morales, en vue de son agir. Et il est bien fondamental de voir le lien entre les compétences intellectuelles et les valeurs morales qui sont là pour faire marcher nos facultés. Elles sont unies et elles s'unissent même par justement ces désirs inscrits au plus intime de nous-mêmes et que saint Thomas parle comme les inclinations naturelles de l'homme. Ça, c'est fondamental dans une anthropologie chrétienne. Les facultés, le désir, les compétences et les valeurs. Et justement, c'est la liberté qui nous permet de les faire grandir, de les faire évoluer, de les faire s'épanouir en se construisant. Et se construire, c'est discerner et décider la manière justement de s'épanouir et de s'accomplir en lien à son histoire personnelle, à son expérience et à la manière d'en avoir plus ou moins conscience, d'ailleurs, qui est le facteur de l'évaluation de sa maturité personnelle. Ainsi, se connaître tel quel, tel que je suis dans ma nature, permet de reconnaître qui je suis et qui est l'autre, et d'engager, de m'engager dans l'être ensemble. Et en fait, on voit que la connaître et reconnaître soi et l'autre permet véritablement d'approfondir le fait que nous pouvons agir ensemble, que nous pouvons exister ensemble. Et j'espère que vous touchez du doigt justement l'importance de se connaître et de se reconnaître. Et regardez tous les tests de personnalité qui existent aujourd'hui, notamment dans le monde de l'entreprise. Toute cette batterie parfois de tests psychologiques d'ailleurs que nous passons pour un recrutement. Mais ce n'est pas pour rien. Alors je ne dis pas de l'étendre dans la famille ou auprès des amis. Mais regardez le temps que nous passons à parler des uns et des autres. C'est quand même très intéressant. Tout dépend aussi de la manière dont on le fait. Évidemment, si c'est avec bienveillance, tout va bien. Si c'est pour critiquer dans son dos, c'est peut-être moins bien. Sauf si la critique est constructive. Mais passons à notre agir ensemble. Cette prise de conscience de soi et de l'autre, dans la connaissance et la reconnaissance de chaque personne en frère, permet d'envisager une autre facette de l'amitié sociale, l'agir ensemble en vue de valoriser l'autre. L'agir ensemble est le moyen encore plus concret, en fait, d'être ensemble. Avec l'agir, une étape se franchit, car la vie, ce n'est pas simplement être, c'est agir. Et le verbe agir possède une saveur particulière. Il est plus qu'un faire. Utilisant et mettant en pratique des sciences abouties, des compétences rigoureuses, un savoir-faire de génie, ces dernières sont essentielles au déroulement de nos projets. Mais ceux-ci seront vraiment bons si les produits ou services ou les œuvres souhaitées visent l'intégrité de la personne, principe du respect humain, nous le retrouvons ici évidemment, qui est appelé à être au service de l'autre. Et le faire deviendra agir s'il est effectué avec qualité morale, qui se résume en un mot, prudence. Mais qu'est-ce que la prudence ? Ne la confondez pas avec la peur, comme le frein à la prise de risque. La prudence est vertu, vertu de responsabilité. Et elle consiste à prendre soin de la personne humaine comme son frère. Ainsi, l'agir de l'amitié sociale se détermine par la liberté qui discerne et décide de la bonté à opérer, mû par l'inclination au bien commun, vécu de manière responsable et qui s'adapte aux circonstances. Ainsi, la bonté d'un tel agir et son accomplissement est alors source d'épanouissement de chaque personne et la valorise. Telle est la conviction qui sous-tend tout projet, l'intention comme son pilier, valoriser la personne comme un frère. Il exige un investissement qualitatif de toutes les dimensions de la personne. Investissement qualitatif, autrement dit, vertueux. Et si nous souhaitons que notre agir soit vertueux et donc valorisant, il ne peut se passer d'une tension, d'un effort pour aller vers l'autre en vue de le valoriser comme un frère. Et tous les actes de l'agir appellent à disposer et entraîner tout ce que chacun peut donner en fonction de ce qu'il est. Son corps avenant en fonction de sa prestance, son cœur ouvert à l'autre en fonction de son caractère, son cerveau compréhensif en fonction de son tempérament. Mais l'agir bon a une autre propriété fondamentale, car il est rarement le fruit d'une seule personne. Et c'est là où l'agir bascule en agir ensemble. Et donc, dialogue avec assertivité, réflexion avec compréhensivité et travail avec résilience. Dialoguer avec assertivité vise l'échange fraternel, respectueux. Et le frère ne sera-t-il pas d'autant plus valorisé si ensemble, l'un et l'autre sont en confiance par le moyen d'une communication sans tabou, sans reproche et sans non-dit. Une communication où chacun s'exprime librement pour dire ce qu'il ressent ou ce qu'il pense avec sa manière de voir les choses et les situations. Communication qui demande aussi que chacun écoute de manière active et attentive. Et ainsi, l'un et l'autre ont le sentiment d'être entendus et compris. Et faites l'expérience. Si soi-même, nous nous sentons compris de l'intérieur, eh bien, nous nous sentons valorisés. L'un et l'autre vont ensemble. Ils sont indissociables. Et c'est pourquoi, dans une communication qui n'est pas facile, la reformulation est indispensable. Car même si nous utilisons les mêmes mots pour échanger, nous avons tous notre propre langage, notre comportement, nos gestes, et donc notre manière propre de s'exprimer. Et d'ailleurs, peut-être que, en vous disant cela, certains sont peut-être largués et ne comprennent pas mes dires, mon langage. Pour cela, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on en discute, pour que nous puissions reformuler, pour que vous aussi, vous preniez conscience de ce que je dis. Mais le dialogue est une chose, mais il sera d'autant plus fécond s'il est agrémenté d'une réflexion commune où le point de vue de chacun est pris en compte. Car réfléchir ne se réduit pas à trouver un compromis, mais c'est véritablement le désir de chercher la sagesse du bien commun à atteindre. Et de nombreux efforts sont à fournir pour s'avouer de ne pas avoir la vérité tout entière, et que l'autre peut aussi apporter quelque chose de bon dans la construction du bien commun. Quelle est, d'ailleurs, dans ce dialogue et dans cette réflexion, la place que je laisse à l'autre, la place de ses idées, la place de sa manière de penser, de réfléchir, de voir les choses. Et c'est ainsi que la compréhensivité fait son entrée. Je dirais cette manière collégiale de chercher ensemble le bien commun et de trouver en lui les défis à relever comme motif d'épanouissement pour les autres et soi. Ainsi est l'exigence du réfléchir ensemble, mais qui amène à une autre exigence, et la place du travail effectif surgit. Il n'est pas de tout repos de concevoir des projets et de les réaliser, et c'est pourquoi la résilience est la vertu qui peut accompagner le travail. Car l'accomplissement de l'œuvre, et de toute œuvre, je ne parle pas que de l'œuvre économique, mais sociale, politique, voire familiale, cet accomplissement de l'œuvre, avec le souci d'épanouir les acteurs comme les spectateurs, et de les valoriser, ne se fera qu'en transformant les obstacles et difficultés en opportunités. Le travail, l'agir ensemble, eh bien, cette œuvre qui est mue par justement ce désir inscrit au plus intime de nous-mêmes, qui est cette inclination naturelle à la vie, à l'existence, qui fait de nous des hommes vivants et qui correspond et qui répond au besoin humain de travailler, de mettre ses compétences et ses vertus au service de l'œuvre commune. Alors, si l'être ensemble est lié à l'agir ensemble, l'être ensemble et l'agir ensemble sont liés forcément à ce que j'appelle l'exister ensemble. Nous existons. Nous vivons. Mais vous voyez, je fais une différence entre vivre et exister. Et il est fondamental de considérer l'existence comme le fait de partager une même planète, une même actualité, une même culture, une même société, même si chacun en a une certaine vision qui lui est propre. Chacun l'appréhende avec ses angles de vue différents, qui peuvent paraître d'ailleurs contradictoires, mais qui sont appelés à être connaturels et à être complémentaires. Et en fait, l'exister ensemble demande ce grand mot qui est dans la bouche de chacun, qui est dans le désir de chacun. C'est tout simplement aimer. Et aimer, c'est d'abord s'aimer soi-même. Ce n'est pas toujours facile de s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, c'est la première chose à aimer. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais évidemment, aimer, c'est aussi aimer l'autre. Mais l'aimer comme un frère qui a pour minimum social vouloir pour autrui son bien. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières d'aimer. Forcément, une femme ne va pas aimer son mari comme elle va aimer ses enfants, comme elle va aimer ses amis, comme elle va aimer ses collègues, comme elle va aimer son boulanger. Certes, il y a différents types d'amitié, et ça, je vous renvoie à Aristote, à saint Thomas d'Aquin. Mais je voudrais me concentrer là sur le premier pas de l'amitié sociale. Et pour moi, l'amitié sociale, dans ce exister ensemble, c'est aussi s'aimer et aimer l'autre, mais cela demande d'aimer l'existence actuelle, notre société dans laquelle nous sommes insérés, dans laquelle chacun est réuni. Le principe de l'exister ensemble, certes, passe par le fait de se construire. Parce que nous sommes tous en relation, ensemble. Encore une fois, par une inclination naturelle qui est propre à l'homme, qui est cette inclination sociable, cette inclination à vivre en société. Et nous avons d'ailleurs trop tendance, mais c'est un avis personnel, à nous laisser aller à une certaine mélancolie. Et certes, pour une part, elle est compréhensible, mais il me semble qu'elle n'est pas très saine. Alors, pour contrer cette déprime ambiante, essayons de trouver une clairvoyance sur la manière de vivre les défis et les enjeux de la société actuelle. Et là, je vous sors cette belle citation que j'adore de Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Tout est une question de manière de voir les situations et donc de les aimer. Aimer, c'est notre capacité à prendre place, à être à sa place, à rester à sa place, et donc à s'intégrer et à s'insérer dans la société. Mais cela demande, bien évidemment, d'être intégré, mais d'intégrer l'autre dans la vie sociable. Mais si je ne suis pas à ma place, et si je ne prends pas ma place en fonction de ce que je suis, alors je ne pourrai pas accomplir le poste qui m'est confié, assurer la fonction qui m'est donnée. assumer la mission que je me suis donnée ou qui m'a été donnée d'accomplir. Et il en est de même pour l'autre. Quelle est la conviction qui me permet d'intégrer et d'aimer cette société actuelle qui a de si beaux défis et enjeux? Si ce n'est ce devoir de développer justement cette inclination sociale en fonction du bien commun, en s'insérant dans le temps et l'espace, en vue de l'harmonie et la communion. Et par ricochet aussi, en vue de la béatitude. Notre temps est à consacrer à la construction de l'amitié sociale en s'insérant dans l'histoire, dans la culture, dans notre planète, dans notre humanité. Et le temps, c'est autant s'inspirer du passé qu'édifier le présent en appréhendant le futur. S'intégrer, c'est considérer que chaque période de l'histoire est marquée par ses combats. Ce sont les grandes leçons du passé. Et il n'est pas étonnant que notre présent et ses combats, liés à son évolution, au changement dû aux découvertes des temps, et que sais-je encore. Et il en sera de même pour les générations à venir, qui auront leur combat. Ainsi, s'intégrer dans l'existence, c'est vérifier dans notre actualité si, en fait, nos motivations par rapport aux défis que nous nous sommes donnés à accomplir sont motifs d'épanouissement et source d'impact positif dans le contexte actuel dans lequel je vis. Et notre être et notre agir en seront d'autant plus porteurs, porteurs de sens qui agrémentent nos raisons de vivre. Ainsi, intégrer la société, c'est vivre l'amitié sociale avec bienveillance, bienfaisance et miséricorde. Bref, avec amour. L'exister ensemble est l'exigence de la relation humaine, des relations entre différentes personnes dans le quotidien. Jamais facile à vivre, évidemment. Mais il est à préciser que il ne s'agit pas d'avoir pour tout le monde dans la relation humaine une même affinité, une même affectivité. Il n'est pas question d'aimer amoureusement tout le monde. Mais en même temps, regardez, Jésus. Tiens, il est quand même notre modèle d'amour. Il aimait tout le monde. Mais pourtant, il n'entretenait pas les mêmes sentiments envers les apôtres, que les pharisiens, que les pécheurs. Et même entre les apôtres, certains avaient avec Jésus des relations privilégiées. Il avait son petit groupe de chouchous. Pierre, Jacques, André et Jean. Et avec Marie-Madeleine, en tout bien tout honneur, il a su entretenir une amitié privilégiée. C'est ainsi que toute relation, certes, est empreinte d'amour, d'amitié, mais que nous avons, en fonction de ce qui nous relie, à gérer tant bien que mal, nos relations affectives. Et c'est pour cela que, encore une fois, nous pouvons aussi distinguer différents types d'amitié. Mais encore une fois, dans cette société, aimer n'est pas une option. Et de plus, et le plus de l'amour enseigné par Jésus, c'est quand même, et avant tout, la miséricorde, si précieuse et inévitable, parce qu'elle devient le pilier de l'agir et du lien entre frères. Car comment viser l'épanouissement intégral de chacun sans miséricorde? Sans miséricorde fait à soi-même, fait à l'autre, mais aussi à la société. Mais miséricorde qui n'est pas neuneux, qui n'est pas « je te pardonne » et recommence, qui n'est pas non plus une miséricorde si exigeante en disant « tu as fait ça, ne le refais plus jamais, sinon je te tue ». C'est cette miséricorde, encore une fois, qui prend en compte l'autre, ce qu'il est, sa capacité d'avancer, sa capacité de changer, sa capacité de s'épanouir et de s'accomplir. Mais cette miséricorde, elle y est inévitable pour cheminer, pour s'engager dans la société civile en vue de s'entraîner ensemble vers la béatitude. Alors je vais conclure. Vous voyez que cette amitié sociale, en fait, est bien plus qu'une relation entre deux personnes connues. Elle nous engage à être en lien avec chaque personne, chaque être humain, comme un ami, comme un frère, parce que toute créature humaine est un enfant de Dieu, appelé à être fils de Dieu. Et cette raison de vivre, comme nous l'avons aperçu, ne consiste pas seulement dans de belles idées ou de belles paroles. Elle s'incarne. Elle s'incarne dans notre être, dans notre agir, dans notre existence. Et cette incarnation n'est-elle pas à l'image et à la ressemblance d'une incarnation du Fils de Dieu qui nous invite inlassablement à la conversion et à la miséricorde? Et nous pourrions reprendre plusieurs évangiles du Christ. Je pense à deux, le sermon sur la montagne, les béatitudes, et peut-être de manière plus concrète, cet évangile au chapitre 25 de Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Chrétien partant de crise, l'amitié sociale, vous venez de suivre une conférence du frère François Régis, conférence enregistrée le 21 février 2021 dans le cadre des conférences de carême des Dominicains de Bordeaux.